Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le chef de l'État poursuit sa visite officielle en France. Félix-Antoine Tshisekedi rencontre d'ici peu son homologue français. Au menu des échanges, le raffermissement des relations entre la RDC et la France, la coopération bilatérale et l'aide au développement, nous a confié Tina Salama, porte-parole du président Tshisekedi. Dans l'actualité aussi, le report de l'opération de dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Motif, plusieurs députés qui étaient candidats aux élections d'hier sont encore à l'intérieur du pays, explique le bureau d'âge. Et puis, depuis 10 ans, une 60aine d'enseignants ont été tués à Beni, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves déplacés, cela à la suite des multiples attaques des rebelles des EDF. Ce tableau sombre est dressé par le syndicat national des enseignants, SIECO Beni, à l'occasion du 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la poursuite de la visite officielle du président Tshisekedi en France. C'est aujourd'hui que le chef de l'État congolais, accompagné des membres de sa délégation, va rencontrer son homologue français. Sauf imprévu, la rencontre est prévue à 12h30, heure de Kinshasa, donc d'ici peu. Que peut-on attendre de leurs échanges? Écoutez la réponse de Tina Salama, porte-parole du président Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis Paris, elle a été jointe par Cynthia Bachizi.
Lors donc de ce déjeuner à l'Élysée, les deux chefs d'État vont revenir sur le raffermissement des relations entre les deux pays, la coopération bilatérale et l'aide au développement. Vous savez, avec ce montant annoncé par l'AFD de 500 millions d'euros pour la RDC. Bien évidemment, la situation à l'est du pays sera au centre des discussions entre les deux chefs d'État. On nous parle également du climat, peut-être de la francophonie. En tout cas, on vous revient tout de suite parce que au sortir de cette audience, les deux chefs d'État auront une déclaration adressée à la presse française et la presse congolaise présente déjà à l'Élysée, et puis ça en suivra un petit point de presse. Donc voilà un peu sur ce qui est attendu, et juste après l'Élysée, le président de la République est attendu au ministère de l'économie et des finances, Bercy, où il va rencontrer le MEDEF, le patronat français, avec les hommes d'affaires congolais de la FEC. Donc c'est une sorte de table ronde sur les investissements entre la RDC et la France.
Avant de rencontrer son homologue français ce mardi, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé hier avec le président du Sénat français. Ce dernier a déclaré, je cite, « La population congolaise paie un prix humain très élevé du fait des exactions commises par les groupes armés et des incursions du Rwanda. L'intégrité de la RDC ne se discute. » Fin de citation. En effet, la première journée de la visite officielle du chef de l'État congolais a été consacrée à la diplomatie parlementaire. Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné notamment de Vital Kamerhe et de Christophe Lutundula, a eu des entretiens élargis à leurs collaborateurs avec les présidents des deux chambres du Parlement français. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizi.
C'est au Sénat français que cette tournée parlementaire a commencé. Sur place, le président Tshisekedi s'est entretenu avec Gérard Larcher, président de cette chambre du Parlement français, ainsi que ses collaborateurs. Sur son compte Twitter, le président du Sénat français a souligné le fait que l'intégrité territoriale de la RDC ne se discute pas face à des incursions du Rwanda, précise-t-il. Après cette séance de travail au Sénat, le président Tshisekedi a eu des échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale française. Nous avons eu un échange approfondi sur nos relations bilatérales et la situation dans l'est du Congo. La France soutient fermement l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, a déclaré Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, sur son compte Twitter après cette rencontre. Avant de poursuivre que la RDC est un pays ami et allié à la France qui mérite tout notre soutien. À ce titre, l'Assemblée nationale française reste mobilisé pour appuyer les efforts menés en faveur du retour de la paix dans la région est de la RDC, y compris au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, précise la présidente de la Chambre basse du Parlement français. Selon la présidence congolaise, cette série de rencontres augure une coopération parlementaire plus approfondie entre les deux pays.
Je vous l'ai dit dans les titres, l'actualité c'est aussi le report par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale de l'opération de dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif dans un communiqué signé par le secrétaire rapporteur et parvenu ce matin à Radio Capi. Le bureau d'âge justifie ce report par la tenue hier des élections des sénateurs et gouverneurs auxquelles plusieurs députés qui étaient candidats et sont encore à l'intérieur du pays. En réaction, plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, déplorent ce report qui, selon eux, n'a aucun fondement légal et pénalise énormément la marche du pays pour des combines politiciennes. Des détails avec Michel Kifindangoy.
Le report par le bureau provisoire des opérations de dépôt des candidatures à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale bloque les institutions du pays au profit des combines politiciennes, dénonce le député Guy Mafouta de l'Union Sacrée.
Ce communiqué me laisse quand même assez perplexe aussi. L'acte de dépôt de candidature est un acte personnel. Et ce sont des actes qui ne devraient nullement engager l'institution Assemblée nationale. Apparemment, l'urgence, c'est un peu les combines politiques. Et là, nous disons non, il faut quand même se rendre compte que le pays est agressé.
L'opposition parlementaire appelle à l'implication personnelle du chef de l'État. Christian Mwando.
La présence des députés aux élections de gouverneurs et des sénateurs n'est pas une raison fondée. Le dépôt des candidatures concerne ceux qui pensent rester à l'Assemblée. En reportant sans fixer une nouvelle date, ça veut dire que nous sommes partis pour encore 2 à 3 semaines, ce qui n'est pas normal. Le président de la République doit interpeller le président du bureau provisoire de l'Assemblée.
Le président du groupe parlementaire de l'opposition, Christian Mwando, invite le bureau d'âge à terminer dans le respect du calendrier électoral publié samedi avec l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Entre-temps, notez cette réaction au lendemain de l'élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa notamment. Les résultats de ces élections montrent que la majorité appartient à l'Union pour la Nation et non à un seul parti politique. Réaction de Gérard Moulumba Dijekoko à l'issue des scrutins qui ont permis au ticket Daniel Bumba et Didier Yeli d'accéder au gouvernorat de la capitale congolaise. L'ancien vice-gouverneur de Kinshasa, qui s'en réjouit, a lui été élu sénateur. Du nouveau locataire de l'hôtel de ville, Gérard Moulumba dit attendre surtout le travail. Il s'est exprimé ainsi à sa sortie de la salle de vote au micro de Babel Mpongo Massimango.
Je pense que je suis parmi ceux qui ont été élus avec beaucoup de voix. Obtenir 5 voix pour aller représenter la République au niveau du Sénat, ce n'est pas du tout facile. J'ai été élu avec 5 voix. Je suis parmi les mieux élus de Kinshasa. Les petits montages qu'ils ont faits pour salir les candidats Daniel et les candidats Eddy et Eli, ça n'a pas bien tenu. Vous avez vu que nous, qui sommes députés provinciaux, nous avons voté Daniel Bumba avec 37 voix. Donc aujourd'hui, on dira que cette histoire-là de la corruption qui a été mal ficelée, s'il faut dire, ça a été démantelé ici, ça a été démenti que la majorité appartient pas à l'IDPS, mais la majorité appartient à l'Union Sacrée.
Qu'est-ce que vous attendez de lui?
Bon, on attend qu'il travaille, hein.
L'actualité aujourd'hui, 30 avril, c'est aussi la journée nationale de l'enseignement. À l'occasion, le syndicat national des enseignants, SIECO, section de Beni, dresse un tableau sombre du secteur de l'enseignement à Beniville et territoire au Nord Kivu. Le SIECO Beni rapporte que depuis 10 ans, 60 d'enseignants ont été tués, des écoles incendiées et un nombre incalculable d'élèves déplacés à la suite des multiples attaques des rebelles des EDF. Jérémy Kasereka, conseiller du SIECO Beni, parle ici d'une situation qui impacte sur la qualité de l'enseignement dans la région de Beni. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Il y a plusieurs écoles qui ont déjà été incendiées. Nous comptons environ 65 enseignants qui ont déjà été décapités par les EDF. Nous avons des écoles qui sont délocalisées, des enfants aussi qui sont en difficulté même de faire face aux frais scolaires à cause de la paupérisation des parents qui ne peuvent plus fréquenter leur champ. Alors, nous allons profiter de votre micro pour lancer un appel pathétique au gouvernement de pacifier notre zone. Parce que vous savez ce que représente l'éducation pour toute une nation. Lorsque plusieurs contrées sont déjà dévastées par l'activisme des rebelles et IDF. Et là, ce sont les écoles qui sont soit brûlées, soit délocalisées. Ça s'appelle maintenant des effets de cause à effet. Ça signifie que le niveau des élèves a sensiblement baissé. Imaginez, nous avons 222 jours au secondaire. Si on peut aller jusqu'à 130 à cause de l'activisme des rebelles, cela impacte profondément la qualité de l'enseignement dans notre zone. Et je sais que si rien n'est fait d'ici 5 à 10 ans, en tout cas, nous aurons déjà presque enterré l'enseignement ici dans notre contrée.
Toujours à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement dans la province du Maniema, Florence Kizalunga nous propose le portrait de Tambwe Mayanga Tamama, plus de 30 ans dans la carrière enseignante. Ce dernier tend vers sa retraite, mais son avenir reste sombre. Il appelle le gouvernement à avoir un œil regardant à la situation de l'enseignant dans le pays et plus particulièrement au Maniema. Suivez.
Marié et père de 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons, parmi eux des licenciés, vit ces conditions difficiles qu'il traverse. Aucun parmi ses enfants n'aspire être enseignant, regrette Tambwe Mayanga.
Ma vie en tout cas est misérable. Pourquoi? Enseignant qui valorise des autorités, mais négligé. Ben, mes enfants qui devaient suivre mes pas pour devenir aussi enseignant n'ont même pas cette envie-là. Il ne reste que quelques années pour devenir retraité. Ma vie est sacrifiée.
Avec un salaire d'au moins 100 dollars, ces derniers n'arrivent pas à bien prendre en charge sa famille.
Avec le petit salaire que nous gagnons, et parfois avec un grand retard, ne me permet pas de jouer mon rôle de parent comme ils font tout autre fonctionnaire de l'État. Cela me pousse à me lancer aux travaux champêtres, au lieu d'être stable dans ma maison et jouir le bonheur que tout autre enseignant dans les autres pays est en train de jouir.
L'enseignant étant quelqu'un qui forge tout le monde, Tambwe Mayanga lance un cri d'alarme auprès des autorités pour améliorer les conditions de vie de l'enseignant.
L'enseignant, c'est bien lui qui valorise le monde, mais abandonne à son triste sort.
Tambwe Mayanga finit en disant qu'il est devenu esclave des banques Lambert pour survivre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, 600 jeunes, dont 20 filles qui se sont présentées volontairement pour évoluer au sein des services nationaux, ont quitté dimanche la ville de Mbujimayi pour rejoindre le site de formation de Kanyama KCC dans la province du Olomami. La cérémonie de ce déploiement a été présidée dimanche à la mairie de Mbujimayi par le gouverneur intérimaire en présence du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuit, ainsi que plusieurs invités. Reportage de Esther Ndalafi.
C'est la première fois que les jeunes du Kasaï oriental sont admis au service national de Kanyama KCC. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuit, a indiqué que ces jeunes seront soumis à une formation paramilitaire et ils seront professionnalisés dans différents métiers.
Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. C'est la formation militaire ou paramilitaire, suivra l'encadrement civique et patriotique. Par après, suivra la professionnalisation. Plusieurs filières sont prévues. Il y a la menuiserie et bénisterie, la mécanique automobile, la mécanique agricole, la maçonnerie. Donc tout ça, c'est ce qui est préparé. Comme ça, on a une bonne main d'œuvre qui est capable de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la reconstruction de ce pays.
Ananias Mouzadi Kankonde, gouverneur de province intérimaire, a prodigué des sages conseils à ces jeunes.
Allez et soyez attentifs à tout ce que l'on va vous enseigner. Soyez des modèles et des références. Apprenez les métiers pour que vous deveniez aussi des formateurs dans notre province.
Ces nouvelles recrues ont sur place reçu des kits vestimentaires composés de tenues, des bottes, des t-shirts et des képis. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Direction la province du Kwilu. La situation est dramatique à Dimalumbu, un quartier urbano-rural de la commune de Basoko, situé à 12 kilomètres du centre-ville de Bandundu. Cette localité est pour le moment inondée à la suite de la montée des eaux de la rivière Kasaï, situation qui a occasionné d'énormes dégâts matériels, laissant plus de 800 ménages sans abri. La bourgmestre de cette entité, Kasilda Kibongo, qui s'est rendue sur le lieu pour s'enquérir de la situation, plaide auprès des autorités compétentes en faveur des sinistrés. Le récit de Irène Boma.
Au total, plus de 280 maisons sont inondées et plus de 100 autres écroulées après débordement des eaux de la rivière Kasaï qui ont quitté leur lit depuis vendredi dernier. Au moins 5 écoles sont sous les eaux, des bureaux de l'État et d'autres infrastructures sont aussi touchées. Les centres de santé ne sont pas épargnés, les malades éparpillés, les femmes ayant accouché ont quitté la maternité de manière catastrophique et celles enceintes se retrouvent en difficulté. Dans cette localité, plusieurs plusieurs toitures des maisons flottent sur les eaux et certains habitants utilisent des pirogues pour circuler. La bourgmestre de la commune de Bassoko, qui s'est rendue lundi sur les lieux, rapporte que des familles sinistrées passent nuit à la Belle Étoile. Cassilda Kibongo lance un SOS en leur faveur.
Vraiment, la situation est scandaleuse. Pire que l'année passée. L'année passée, ce n'était pas aussi grave que cette fois-ci. 818 ménages en souffrance. C'est vraiment catastrophique que les autorités puissent réagir pour que cette population ait quoi manger ou dormir, qu'une solution efficace soit trouvée à la longue.
Dima Lumbu étant alimenté en courant électrique transporté par des poteaux en bois, certains habitants craignent les dangers liés au cas d'électrocution. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les pluies incessantes au Kenya ont provoqué des inondations qui ont déjà tué près de 100 personnes et reporté l'ouverture des écoles. Hier lundi, des corps ont été récupérés après le chavirement d'un bateau dans le comté de Garissa, dans le nord du pays. Chavirement survenu dans la nuit de dimanche à hier lundi. La Croix-Rouge kenyane a déclaré avoir secouru 23 personnes du bateau, mais plus d'une douzaine de personnes sont toujours portées disparues.
L'invité.
Je vous l'ai dit tantôt, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale renvoie s'inédit l'opération de dépôt des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif. Il évoque la tenue hier des élections des sénateurs et gouverneurs auxquels plusieurs députés étaient candidats et sont encore à l'intérieur du pays. Pour en parler, nous recevons le président du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, Christian Mwando. Invité de Radio Kapi, répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Monsieur Christian Mwando, bonjour.
Bonjour, Michel Kifinda.
Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient d'annoncer le report pour une date ultérieure des opérations des dépôts de candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Nous avons très mal accueilli la nouvelle du report des élections à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai l'impression que les gens ont tout le temps, le pays est en guerre, le pays est en crise, et le bureau provisoire prend un malin plaisir à tirer les choses en longueur, et ce n'est pas du tout normal.
D'après le bureau provisoire, ce report est dû principalement à la tenue lundi des élections des sénateurs et gouverneurs, et plusieurs députés ont été candidats.
Je pense notamment que la présence des députés aux élections de gouverneurs et des sénateurs n'est pas une raison fondée pour reporter le dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures concerne ceux qui pensent rester à l'Assemblée nationale. Ces élections se sont passées hier et donc nous avons encore toute la semaine, cette semaine, pour que ces gens puissent revenir et que les élections se déroulent comme c'était prévu la semaine prochaine. En reportant sans fixer une nouvelle date le dépôt des candidatures, ça veut dire que nous sommes partis pour encore 2 à 3 semaines. C'est tout à fait une situation inacceptable.
Qu'adviendra-t-il donc si le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas installé au cours de ce mois de mai?
Non, je pense qu'il n'est pas question que le bureau définitif ne soit pas installé au courant du mois de mai, parce que je crois que on tomberait dans une situation tout à fait exceptionnel. Moi, j'interpelle aussi ici le chef de l'État parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Je pense que le président de la République devrait rester un peu plus au pays pour s'occuper des graves problèmes qui concernent le pays au lieu d'être en train de se balader à travers le monde et constamment.
En quoi ce report bloquerait le bon fonctionnement des institutions de la République ?
Ce report va bloquer le fonctionnement des institutions parce que vous savez que le gouvernement ne peut être installé que s'il y a un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc même si le gouvernement est publié, ce gouvernement ne saurait être investi s'il n'y a pas de bureau définitif. Donc le plus tôt on installe le bureau définitif de l'Assemblée nationale, le mieux c'est pour que on soit prêt pour investir le gouvernement. En outre, il y a beaucoup de travaux que l'Assemblée nationale doit faire. Vous savez les scandales financiers qui sont en cours au niveau de la République. C'est le rôle de l'Assemblée nationale d'exercer le contrôle également sur l'action du gouvernement. Or, s'il n'y a pas de bureau définitif, ça veut dire que les commissions de l'Assemblée nationale ne sont pas mises en place. L'Assemblée n'a pas commencé son fonctionnement normal alors que l'Assemblée a été convoquée depuis la fin du mois de janvier.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ce report est une façon pour le président Mbosso de s'accrocher davantage au perchoir de l'Assemblée nationale?
Nous pensons que le président Mbosso s'accroche au bureau provisoire parce que il n'y a aucune raison valable pour que on ne soit pas déjà en plein travail depuis bientôt 3 mois. Ce n'est pas normal et ce n'est pas possible. Et c'est, je pense, que c'est l'une des premières fois qu'on voit ça dans l'histoire de ce Parlement. Normalement, en cette période, on est déjà en pleine session ordinaire.
Monsieur Christian Mwando, je vous remercie.
Merci, Michel Guiffin.
C'était là le président du groupe parlementaire de l'opposition. Christian Mwando répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.